Alors, le père Innocent Marie m'a demandé de vous parler d'un événement relativement contemporain, la révolution de mai 1968. Mai 68, pour moi, ce n'est pas seulement de l'histoire, ce sont aussi des souvenirs personnels. Il m'est donc très difficile de porter un regard objectif sur ces événements, parce que j'y ai été mêlé d'une certaine manière, bien malgré moi d'ailleurs, je m'empresse de le préciser. J'avais été nommé en novembre 1967, assistant à l'ancienne faculté des lettres de Paris. Je commençais donc là ma carrière dans l'enseignement supérieur. Et j'exerçais donc, depuis quelques mois seulement, mon enseignement. Je donnais mon enseignement depuis quelques mois dans la vieille Sorbonne. J'ai donc commencé ma carrière, si je puis dire, ma carrière universitaire avec mai 68. Et je dois dire que depuis, j'ai continué avec les séquelles de mai 68. Car mai 68, comme toutes les révolutions, n'a jamais fini. On en vit encore. Cet événement est aujourd'hui relativement oublié. Une enquête récente faite par le journal Présent montrait que beaucoup d'étudiants ne savaient plus du tout de quoi il s'agissait. C'est devenu une sorte de mythe, une sorte de légende. Les souvenirs sont confus, les connaissances imprécises. Les étudiants de gauche, ceux qui devraient prendre le plus grand intérêt à cet événement, à cette histoire, ces étudiants eux-mêmes semblent n'en avoir aucune connaissance. À cet égard, il y a un très grand changement entre le deuxième anniversaire et le premier. Le premier, c'était il y a 10 ans. C'était il y a 10 ans. Il y a 10 ans, les étudiants savaient encore de quoi il s'agissait à peu près. Maintenant, ils ne le savent plus. Ce qui ne les empêche pas, éventuellement, de rappeler mai 68 comme une des grandes dates de la protestation étudiante. L'opinion publique également, les Français, d'une manière générale, ont bien oublié cet événement. Pourquoi ? D'abord parce que nous sommes presbytes lorsque nous regardons le passé. Nous voyons mieux ce qui est un peu lointain que ce qui est proche. Par ailleurs, cet événement de mai 68 n'est plus dans le présent, mais n'est pas encore dans l'histoire. Alors où est-il? On ne sait pas très bien. Il est à la frontière, à cette frontière incertaine qui sépare le passé du présent, et c'est pourquoi on ne sait pas très bien quelle méthode d'analyse lui appliquer. Est-ce que c'est la méthode journalistique? Est-ce que c'est la méthode historique? On ne sait pas très bien. Il y a une autre raison pour laquelle les Français ne savent pas ce qu'est mai 68. C'est parce qu'on s'est employé finalement à défigurer cet événement, à ne pas le montrer sous son vrai jour, à en cacher ce qu'il avait de désagréable, d'odieux, de hideux. Mai 68, c'est un passé qui est celui de la plupart de nos hommes politiques, et qui, à ce moment-là, pour beaucoup d'entre eux, étaient à l'apogée de leur carrière. Je ne veux pas dire qu'ils soient à leur déclin, mais enfin, ils étaient à l'apogée, c'était le beau moment. Ils avaient la quarantaine, ou la trentaine, glorieuse. Et, comme d'autres événements, mai 68 n'est pas de ceux qui peuvent grandir leur réputation, augmenter la considération que l'on pourrait avoir pour eux. C'est pourquoi ils ne sont pas tellement soucieux de rappeler très exactement ce qui s'est passé à ce moment-là, et quel fut leur rôle dans ces événements. C'est donc notre objectif, à nous, historiens, de dire ce que les hommes politiques qui nous gouvernent aujourd'hui, ou qui prétendent nous gouverner, ont joué dans cette affaire. Il est important de le rappeler, de façon à ce que nous puissions porter un jugement plus critique sur les événements contemporains, de façon à ce que nous puissions éclairer ceux qui nous entourent. je suis frappé de voir à quel point le passé des hommes politiques d'aujourd'hui est ignoré par les Français. La jeunesse en particulier semble ne rien savoir de ce qu'ont fait ces hommes-là. On connaît la résistance, 1945, la libération de la France. Bon, voilà ce que l'on connaît, voilà ce que l'on enseigne dans les manuels scolaires. Les hommes politiques vivent de ce passé-là. Mais ce qui s'est passé entre les deux, c'est-à-dire entre 1945 et aujourd'hui, alors sur ces événements-là, il y a un flou, on a répandu une sorte de flou artistique. On n'en sait rien. Et c'est pourquoi nous devons nous rappeler ces événements plus récents. Nous devons dire ce qui s'est passé. À propos des principaux protagonistes, je pense au général de Gaulle, je pense à M. Mitterrand qui est intervenu de façon significative pendant les événements de mai 68, mais aussi à propos d'autres personnages, comme par exemple M. Perfitte, M. Carrefour, on ne peut plus dire monsieur puisqu'il est mort, selon les règles de l'historiographie, Edgar Faure, Missoff et d'autres encore. Il est temps d'entrer dans le sujet. D'abord, que se passait-il en France au début de 1968 ? Il faut le rappeler. Ensuite, comment se sont déroulés les événements ? Je distinguerai, ceci à vous, afin de vous aider à suivre mon propos, je distinguerai trois étapes, trois séquences que nous ferons passer au ralenti. Première séquence, la révolution étudiante. La révolution étudiante qui a commencé le 22 mars 1968 à Nanterre et qui atteint son paroxysme le 12 mai avec la grande nuit des barricades du 11 au 12 mai 68. Deuxième séquence, la révolte gagne le monde étudiant tout entier et le monde ouvrier, et disons la France entière. Alors c'est la grève générale, c'est la Sorbonne occupée. Cette période dure jusqu'au 24 mai, et le 24 mai commence la troisième phase, que j'appellerai la phase de la vacance du pouvoir, de la vacance de l'État, et qui va durer jusqu'au 30 juin, date des élections législatives. Le 30 juin, c'est la fin de mai 68. C'est la fin du mois de mai. Je reprends. D'abord, la révolte étudiante. D'abord, il faut rappeler ce qui se passait en mai 68 en France. Rien de bien extraordinaire. Il y avait des grèves, mais pas plus que d'habitude. C'était la prospérité économique, encore, bien que sur son déclin. Nous étions encore dans cette période que l'on appelait les 30 glorieuses, 45-75, 30 années de prospérité, 30 années d'enrichissement, 30 années de jouissance matérielle. Prospérité économique, donc, de Gaulle règne depuis 10 ans. Il est revenu au pouvoir en 1958 à la faveur des événements de l'Algérie française. Il a une majorité bien assise. Son pouvoir n'est pas du tout compromis. Il semble qu'il doive durer indéfiniment. Plus il parle, plus il a de succès. Plus les Français sont contents. Le monde entier le considère comme un grand homme. Par conséquent, tout va très bien. Tout va très bien, à tout point de vue. Tout au moins en ce qui concerne l'économie et la stabilité politique. Et rien ne peut laisser prévoir un si grand ébranlement. Certes, la contestation étudiante est prévisible. Dans la plupart des pays du monde, elle sévit déjà. Aux États-Unis, le leader des étudiants s'appelle Salvio le Rouge. En Allemagne, c'est Rudi Dutschke. Depuis le début de l'année 67, les universités allemandes fonctionnent mal. Le fonctionnement est interrompu par des grèves fréquentes. Le Japon, depuis 65, l'Italie, depuis 67, sont également troublés par des mouvements étudiants communistes ou gauchistes. Rien d'étonnant donc à ce que cette contestation gagne la France. On aurait pu le prévoir. Mais pouvait-on prévoir que cette révolution étudiante entraîne avec elle la paralysie du pays et la vacance de pouvoir? Certainement, cela, c'était difficile à prévoir. Alors, première séquence. Passons les événements, revoyons les événements au ralenti. Enfin, revoyons-les. Je pense que pour la plupart d'entre vous, c'est une première. Il y a dix ans, j'avais encore... Enfin, lorsque je parlais de ces événements, je m'adressais à des étudiants qui n'en avaient pas évidemment de souvenirs, mais qui en avaient entendu beaucoup parler. Ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas pour la génération des 20-25 ans. Alors, regardons ces événements. Nous sommes à Nanterre. Nanterre, on a eu la gentillesse de mettre un plan de la région parisienne ici. Nanterre, c'est tout près de Paris maintenant, par le RER. 10 minutes. 10 minutes depuis l'Étoile. C'est très rapide. À l'époque, il y avait un mauvais train de banlieue et on mettait plus d'une demi-heure. Et c'était donc assez loin. Nanterre, c'est un ancien village, comme vous savez. Nanterre, c'était à l'époque une zone, c'était la zone. C'était un bidonville et qui avait été promu tout d'un coup à la dignité de lieu d'études, de lieu académique. Pourquoi ? La Sorbonne était pleine jusqu'au bord. Il y avait beaucoup de droits d'étudiants pour les locaux. L'explosion démographique, l'accroissement du nombre des étudiants avait rendu nécessaire la construction de nouveaux édifices universitaires. La création avait été décidée en 1960 par le gouvernement. On avait proposé au doyen de la faculté des lettres de Paris, donc le patron de la Sorbonne, le doyen Aymard, on lui avait proposé Neuilly. Mais comme c'était un homme de gauche et attaché aux valeurs de la gauche, aux valeurs de la classe ouvrière, comme il disait, il refusa Neuilly avec indignation et demanda Nanterre. On construisit donc à Nanterre et on construisit 3 énormes HLM. Il n'y a rien de plus laid que Nanterre, c'est affreux. 3 énormes bâtisses, je dis HLM, ça ressemble plutôt à des casemates. Vous savez, les casemates du mur de l'Atlantique, qui sont encore, on n'a pas réussi à détruire, au bord de l'océan. Chaque bâtiment est traversé par un large couloir au plafond bas, éclairé de loin en loin, comme un tunnel. On marche dans l'obscurité pendant un certain temps, puis de temps en temps, alors, il y a une grande fenêtre, et on voit, non pas la campagne, mais d'autres bâtiments du même style. Alors, c'est un lieu c'est un lieu repoussant. C'est pire qu'une gare. Aujourd'hui, on construit d'ailleurs des gares qui sont fort agréables. C'est, j'allais dire, pire qu'un tunnel, parce que de temps en temps, on sort du tunnel, mais on y replonge aussitôt. C'est impossible à vivre. Et je ne parle pas des résidences universitaires qui ont été construites donc dans ces années 60, à côté des casemates. Résidences universitaires d'apparence assez agréable, mais dont les chambres sont minuscules et je ne dirais pas inconfortables, mais on ne peut pas travailler parce qu'on entend très distinctement tout ce qui se passe dans la chambre voisine. Je le sais pour avoir eu des amis qui ont logé dans ces chambres à cette époque. Par contre, alors, le complexe sportif est superbe. Superbe. Il y a une piscine en particulier qui fait l'admiration de tout Paris. On y vient le dimanche en famille pour voir ça. Mais évidemment, tout ça forme un monde isolé de tout. Nous sommes donc à plus d'une demi-heure de Paris. Il n'y a pas d'autobus après 21h. Il n'y a pas de théâtre. Il y a deux cinémas à Nanterre. C'est tout, et qui sont petits. Il n'y a pas de quartier latin, évidemment. Pas de café, pas de brasserie, rien du tout. Et cet isolement sinistre, cet éloignement de la vie réelle, est tout à fait favorable à l'éclosion de l'idéalisme révolutionnaire. Cette idéologie qui est faite avant tout de refus de la réalité. C'est le royaume des nuages. Et il n'est même pas beau. C'est là donc, c'est dans ce cadre privilégié, ce cadre propice, on n'aurait pas pu trouver mieux, si je puis dire. C'est là que la révolution a commencé, en janvier 1968. Elle a commencé par la protestation étudiante contre l'impérialisme américain et par une autre protestation étudiante contre certaines contraintes imposées par les directeurs de la résidence universitaire. protestation étudiante contre l'impérialisme américain. Cette protestation est organisée par les comités Vietnam. Il s'agit de protester contre les bombardements américains au Vietnam, contre le génocide des populations vietnamiennes. Il s'agit, en somme, de défendre l'impérialisme soviétique. C'est ça. Des manifestations ont eu lieu au début de 68. Des journées de soutien au peuple du Vietnam ont été organisées par l'UNEF au mois de février et au mois de mars. Alors, l'autre mouvement qui agit parallèlement, c'est la protestation des résidents de la cité universitaire en lutte pour, disent-ils, la liberté sexuelle. C'est-à-dire le droit pour les garçons d'aller chez les filles, dans les chambres des filles, et inversement. Alors, depuis novembre 1967, les incidents se sont multipliés entre l'administration et les étudiants. C'est une revendication d'ailleurs assez ancienne. J'avais été moi-même spectateur en mai 1958, 10 ans plus tôt, nous remontons presque au déluge, en mai 58, alors que je préparais l'agrégation à Paris, j'étais à ce moment-là logé à la résidence universitaire du boulevard Jourdan, dans le 14e, et j'avais été spectateur d'une émeute, organisée par l'UNEF, contre un directeur de résidence courageux qui prétendait interdire la communication libre entre la partie des filles et la partie des garçons. Et les étudiants avaient mis le feu à son bureau. Et déjà, le gouvernement avait muté le directeur, donnant raison aux étudiants. C'était en 1958. Alors Nanterre, donc, développe ces deux mouvements de protestation et très vite devient un bouillon de culture. C'est un mouvement complexe au point de vue politique, car ces deux protestations contre l'impérialisme américain et pour la liberté sexuelle sont organisées par plusieurs tendances politiques. Il y a les communistes orthodoxes, il y a les pro-chinois, il y a les PSU, il y a les trotskistes, qui sont divisés en deux tendances rivales, la tendance Lambert, nous avons revu récemment sur les écrans M. Lambert, qui s'est présenté à la présidence de la République. Vous voyez, ces gens-là, au fond, ne vieillissent pas. Ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Oui. Vous savez, on dit toujours que ce sont les bons qui partent les premiers. C'est vrai. Hein. On le constate souvent. Hein. On a l'impression que le bon Dieu attend qu'ils se convertissent pour les reprendre. Enfin, M. Lambert, je ne sais pas, je ne voudrais pas faire de jugement téméraire, mais... Bon, et puis alors, il y a la tendance Franck. La tendance Franck qui est liée à la Ligue communiste révolutionnaire. Voilà les tendances politiques qui sont derrière, les mouvements politiques qui sont derrière ces deux protestations. Voilà donc les organisateurs, voilà les conditions, et maintenant, regardons ce qui se passe. Le 8 janvier 68, François Missoff, ministre de la Jeunesse, vient à Nanterre, non pas pour inaugurer la piscine, qui a été inaugurée 6 mois plus tôt, mais pour la voir. Il est le ministre de la Jeunesse et des Sports. Et il vient la voir parce qu'elle a coûté très cher. Et des voix se sont élevées au gouvernement, à l'Assemblée nationale, pour protester contre le coût de cette piscine. Vous voyez, la piscine vraiment est au centre des événements. Alors, à la fin de la visite, à la sortie, M. Missoff est accueilli par des vociférations. Et un gros garçon, aux cheveux roux, s'avance vers lui, tout près de lui. Alors, à ce moment-là, le doyen de Nanterre, le doyen Grappin, ça tombe bien, le prend par le col et le bouscule. Mais il revient et demande du feu au ministre. Et puis il lui dit, Monsieur le ministre, j'ai lu votre livre blanc sur la jeunesse. Enfin, le ministre, ou plutôt ses services, avait commis un livre blanc sur la jeunesse. Il doit avoir 300 pages et vous n'évoquez pas le problème sexuel chez les jeunes. Je m'occupe de favoriser les sports, répond le ministre. Il y a les problèmes sexuels, répond Monsieur Cohn-Bendit, car c'était lui. Si vous avez des problèmes sexuels, répond Père Fitt, vous pouvez toujours vous plonger dans la piscine. Alors à ce moment-là, le dialogue s'arrête ici. À ce moment-là, une jeune fille lance à Père Fitt, à Missoff, lui lance, on a assez vu ta grande gueule. Et tout se termine de cette manière. Cependant, en partant, Missoff fera un petit signe d'adieu amical aux étudiants qui viennent de l'insulter et en leur disant « Je suis prêt à discuter avec vous ». Ça commence. Cohn-Bendit, étudiant de nationalité allemande, est le personnage de cet incident et de ce jour, il est devenu un héros. Le 22 mars, avec 142 étudiants, pour protester contre l'impérialisme américain et contre la répression anti-comité Vietnam, Cohn-Bendit occupe la tour de l'administration de Nanterre. Une tour qui est construite au centre de l'université, dans laquelle sont logés tous les services administratifs. Dans ce groupe d'étudiants, il y a toutes les tendances révolutionnaires, les trotskistes, les chinois, les orthodoxes, la JEC et d'autres encore. C'est l'union des groupuscules, c'est la force vive, cette union, c'est la force vive de mai 68. C'est ce qu'on appelle désormais le mouvement du 22 mars. C'est le mouvement qui donne le départ à la révolution étudiante. Alors, il est remarquable de constater que l'union s'est faite sur la défense de l'impérialisme communiste. Cette union de toutes les tendances, de tous les groupuscules, s'est faite là-dessus. La défense de l'impérialisme communiste et, accessoirement, la protestation contre l'impérialisme américain. Sans parler, bien entendu, de la libération sexuelle. Voilà les bases idéologiques de mai 68. Il convient de les rappeler toujours. Il ne s'agit pas, comme on l'a dit souvent, d'un noble mouvement idéaliste représentant les aspirations profondes de la jeunesse. Non, il s'agit au départ d'un mouvement politique, essentiellement, sans parler bien entendu des autres mobiles, mais l'inspiration politique, la protestation contre l'impérialisme communiste est très importante. Il ne faut pas oublier que mai 68 est parti de là. Alors, dès lors, les manifestations et les occupations d'amphithéâtres vont se multiplier à Nanterre. À partir de ce moment-là, l'université de Nanterre, enfin, la faculté des lettres, qui est à Nanterre, ne peut plus fonctionner. Tous les jours, les cours sont interrompus. Le malheureux doyen Grappin ne sait à quel saint se vouer. La police intervient, mais à tort et à travers. Le Grappin reçoit une poubelle sur la tête. Enfin, il y a eu comme ça des événements importants signalés par les médias. Et chaque fois que la police intervient, timidement, à la demande du doyen, lequel est un homme de gauche, il est désolé de devoir faire appel à la police. Chaque fois que la police intervient, elle arrête un ou deux manifestants. Et chaque arrestation de manifestants relance l'agitation. C'est le cycle infernal, répression, arrestation, manifestation, et ça recommence toujours. La presse nationale se montre très discrète sur ces événements. Elle le sera moins dans quelques jours. Mais pour l'instant, on ne parle pas, ou très peu, on ne parle que très peu des événements de Nanterre. Ce qui désole M. Cohn-Bendit et ses amis. Ils décident alors de porter le mouvement sur l'avant-scène, c'est-à-dire à Paris. À Nanterre, on ne sait rien, on est au fond des bois. Alors, il faut donc, pour frapper les médias, pour frapper l'opinion, transporter la révolution de Nanterre où elle s'enlise. Il faut la transporter à Paris. C'est là, c'est à Paris, que se font les véritables révolutions. C'est alors que le 3 mai, l'UNEF et les autres mouvements tiennent un grand meeting dans la cour de la Sorbonne. La date du 3 mai est donc la date importante après celle du 22 mars. Le 3 mai, grand meeting du mouvement du 22 mars, organisé dans la cour de la Sorbonne. Le prétexte est l'arrestation arbitraire de quelques camarades. Alors j'ai assisté à cette manifestation d'une fenêtre de la cour de la Sorbonne. Alors c'était un spectacle très curieux. Le 22 mars, évidemment, était là, effectivement. Tous les militants de Nanterre étaient là, avec femmes et enfants. C'était très curieux. Et ils avaient emmené toute la tribu. Ils étaient vêtus de peaux de bête ou d'oripeaux comparables. Je me rappelle, enfin, j'ai eu l'impression, vous savez, que donne la lecture de Chateaubriand lorsqu'il décrit le camp des barbares dans Les Martyrs. Une tribu, on voyait une espèce de tribu d'ostrogoths dépenaillés. Ils faisaient la cuisine et la lessive dans la cour. Ils s'étaient installés déjà, ils campaient là. Et il y avait des étudiants, mais il y avait aussi beaucoup de zonards ramassés autour de Nanterre et un peu plus loin, et qui donnaient un certain pittoresque à ce campement. ils avaient décidé de camper là et de ne pas en bouger, de rester là jour et nuit indéfiniment, nous apprîmes cela dans la journée, à cause de la menace des fascistes. Il y avait, paraît-il, une menace fasciste qui était dangereuse, très dangereuse pour le monde étudiant. On les appelait les fascistes ou les FAF. Les FAF. Qui étaient ces fascistes? Bien, on ne sait pas très bien. Enfin, on connaissait, on parlait d'un mouvement fasciste, c'était le mouvement Occident. Le mouvement Occident que l'on présentait comme un mouvement redoutable, tramant dans l'ombre des conspirations terribles contre la République. Des couteaux s'agitaient. En fait, Occident, je l'ai su beaucoup plus tard, il y a 3 ans, par Pascal Gauchon, qui était à cette époque un militant d'Occident. Occident représentait, m'a-t-il dit, à ce moment-là, 50 militants actifs sur toute la région parisienne. Et peut-être, m'a-t-il dit, 150 sympathisants dans toute la France. C'était donc, vous le voyez, une menace très importante. Mais les révolutions ont besoin de complots. Sans complots, elles dépérissent. Il faut des conspirations contre le peuple. Des complots aristocratiques. Pendant la Révolution, c'était ça. Le complot aristocratique a mobilisé les foules parisiennes. Eh bien, pendant mai 68, le complot d'Occident a mobilisé les étudiants. Chaque fois qu'on voulait faire une manifestation dehors, qu'on voulait aller brûler des voitures, mettre le feu à la bourse, on disait d'abord, les fascistes nous menacent, Occident est là, ils vont nous attaquer cette nuit. Évidemment, c'était absolument impossible, mais nul ne le savait. Donc, à partir de ce moment-là, de ce 3 mai, il règne à Paris une atmosphère de mobilisation générale. À Paris, à Nanterre, parce que Nanterre s'est mis en autodéfense, et la plupart du territoire de l'université a été occupé. Donc, Paris et Nanterre sont occupés par les étudiants, la Sorbonne et Nanterre sont occupés par les étudiants. Le pouvoir, alors, juge l'occasion bonne pour tenter un coup de force. L'occasion lui paraît bonne, en effet, la menace fasciste lui paraît un bon prétexte, l'attaque probable des étudiants par Occident. Le pouvoir déclare, les hommes du pouvoir déclarent, nous voulons éviter toute bataille, tout combat entre les étudiants de droite et les étudiants de gauche. Alors pour éviter ce combat, pour éviter cette bataille, eh bien, nous allons fermer la Sorbonne. Et de cette manière, nous supprimerons la cause du mal. Et le recteur Roche, nous n'avons pas oublié son nom, réquisitionne la police, laquelle ferme la Sorbonne. Quelques jours auparavant, on avait fermé Nanterre. Cette fermeture de la Sorbonne a entraîné l'arrestation de quelques militants. Une dizaine de militants du mouvement du 22 mars ont été arrêtés et sont gardés à vue. Ce qui déclenche la grande nuit des barricades, la nuit du 11 au 12 mai. Cette nuit des barricades est restée célèbre, enfin elle a été longtemps célèbre, elle ne l'est plus, mais on l'a comparée à la prise de la Bastille. On y était ou on n'y était pas. Moi je n'y étais pas, mais on me l'a beaucoup raconté. On a fait croire d'ailleurs à beaucoup de naïfs que c'était 1848, que c'était 1830, que c'était le 14 juillet. À certains points de vue, il y avait des ressemblances. Imaginez la montagne Sainte-Geneviève, vous connaissez cet endroit qui est tout près de la Sorbonne, n'est-ce pas? La Sorbonne est ici, la montagne Sainte-Geneviève, le Panthéon et Saint-Étienne-du-Mont sont là, donc nous sommes tout près de la faculté de droit et de la faculté des lettres et l'ancienne faculté des sciences. Alors imaginez donc la montagne Sainte-Geneviève hérissée de barricades, ces petites rues qui descendent de la montagne, qui sont coupées de barricades. Ces barricades ont été construites d'abord avec les pavés de la chaussée, on a dépavé les chaussées. Alors ces pavés, on va avoir un rôle symbolique dans la révolution de mai 68, on vendra des pavés aux bourgeois qui viendront dimanche visiter la Sorbonne occupée. On fait les barricades également avec des arbres, les arbres du boulevard Saint-Michel qui sont sciés à la tronçonneuse, et puis avec les voitures. Les voitures alors ont également été très utiles dans cette affaire. On prenait les voitures, on y mettait le feu. Cette nuit-là, cette nuit du 11 au 12 mai, la police n'y est pas allée de main morte. elle a nettoyé avec vigueur. On ne savait pas encore qu'on avait affaire à quelque chose de très grave. Le gouvernement traitait cette affaire comme quelque chose de relativement anodin. Bon, alors la police a reçu des ordres, le préfet de police a transmis les ordres et la police a nettoyé. Elle a nettoyé et des étudiants ont été poursuivis dans les rues par des CRS. Ils se réfugiaient dans les maisons, mais les CRS montaient les escaliers derrière eux, les rattrapaient. Si bien que les braves gens du quartier latin, qui sont des gens tranquilles, qui aiment bien les étudiants, traditionnellement, ont été épouvantés de voir surgir chez eux, à des heures impossibles, d'abord des étudiants déguenillés et hagards, et derrière eux, des représentants des forces de l'ordre. Et ils ont trouvé que la police s'était conduite de façon barbare vis-à-vis des étudiants. Leur indignation n'était rien à côté de celle de l'intelligentsia et des autorités religieuses. Le lendemain, ces gens-là ont poussé des cris d'horreur. Les prix Nobel, les académiciens, enfin tous les intellectuels ont dit « mais on a massacré les étudiants pendant la nuit ». En fait, personne n'avait été massacré. Il y avait eu évidemment une centaine d'arrestations au cours de la nuit, mais la plupart des manifestants arrêtés avaient été relâchés. Alors le pouvoir, devant cette protestation unanime, se déculotte immédiatement. Le Premier ministre n'est pas là. Le Premier ministre n'est pas là, mais il rentre. Où est-il ? Il est à Kaboul. Il est à Kaboul, il fait une visite au gouvernement de l'Afghanistan. Après tout, c'était son droit. Il rentre précipitamment le 12 au soir. Son avion se pose à Orly à 19h15. Il voit aussitôt le grand chef. C'est-à-dire que d'Orly, on l'amène directement à l'Élysée, où le général de Gaulle lui demande son avis. Alors que croyez-vous qu'ils vont faire ? Vont-ils mettre fin à ces intolérables scènes de rue ? Vont-ils rafler toutes les organisations gauchistes ? Vont-ils ramener l'ordre à Nanterre et permettre l'exercice libre de l'enseignement ? Enfin, vont-ils arrêter tout cela ? Non, pas du tout. Pas tout ça, toutes ces mesures étaient bonnes pour les défenseurs de l'Algérie française quelques années plus tôt. Mais là, il faut montrer de la mansuétude. Il faut se montrer plein d'indulgence vis-à-vis de ces étudiants, vis-à-vis de ces mouvements communistes ou gauchistes qui les soutiennent. Il faut montrer de la bienveillance et il faut la montrer par un geste d'amitié. Et ce geste d'amitié, c'est la réouverture de la Sorbonne. Le soir même de son arrivée, Pompidou annonce la réouverture de la Sorbonne. C'est un geste de bienveillance vis-à-vis des mouvements communistes et gauchistes. J'ai décidé, dit-il, dans son allocution de 23h15, il n'a pas traîné, il est arrivé à 7h15, à 11h15, il prend la parole sur les ondes, j'ai décidé que la Sorbonne serait librement ouverte à partir de lundi, les cours reprenant à la diligence du recteur et du doyen. Ce qui est une hypocrisie manifeste, car Pompidou sait, et ne peut pas ne pas savoir, qu'il livre la Sorbonne au groupe révolutionnaire. En effet, dès le 12 au soir, les mouvements communistes et gauchistes ont préparé l'occupation de la Sorbonne. Et dès le 13 au matin, les portes ont été ouvertes à 6 heures du matin. On a vu arriver les fourriers des comités d'occupation, qui fonctionnaient déjà, qui existaient déjà. C'est-à-dire qu'on a vu arriver des étudiants qui n'avaient pas du tout l'intention de suivre librement les cours, mais qui avaient l'intention de transformer la Sorbonne en une sorte de centrale du mouvement révolutionnaire. Et j'ai vu arriver ces étudiants, enfin ces étudiants, si on peut dire, ces militants. Ils apportaient des panneaux, des flèches de signalisation, des affiches indiquant les réunions du lendemain et du soir. C'était, en somme, une agitation comparable à celle qui précède l'organisation d'un meeting à la mutualité, par exemple. Et tout était déjà prévu. On avait même dressé des plans de la Sorbonne sur lesquels se trouvait indiqué la situation de tel ou tel comité, les anarchistes, les trotskistes, les communistes. Tout était déjà programmé. Tout était parfaitement organisé dans cette révolution qu'on a dite spontanément. Ça, c'est une affaire, c'est toujours de cette manière que les choses se passent. Donc le 12 mai, l'État, le 12 mai au soir, à 23h15, l'État français a laissé s'installer au cœur de Paris le quartier général de la Révolution. C'est le sens de la décision de Pompidou. Alors, je veux bien croire qu'il s'agit d'une erreur d'appréciation. Il rentrait de Kaboul. C'est vrai que le Kaboul est loin. Pompidou a-t-il voulu créer un abcès de fixation? A-t-il sacrifié délibérément la Sorbonne? On peut se poser ces questions. On sait que De Gaulle et Pompidou n'aimaient pas l'université. Peut-être se sont-ils dit, de cette manière, eh bien, les universitaires, ces vieux mandarins, ces vieux croutons, seront punis. On va les corriger. On va les obliger à faire une révision de vie, à critiquer leurs attitudes impardonnables de vieux savants, dédaigneux du monde étudiant. Enfin, on se perd en conjecture, on ne sait pas exactement ce qu'ont voulu De Gaulle et Pompidou en livrant ainsi la Sorbonne, et ils ne pouvaient pas ne pas savoir qu'ils la livraient, au mouvement révolutionnaire. Pour l'instant, nous ne savons rien, nous n'avons aucun élément qui nous permette de porter un jugement objectif sur cet événement. C'est la fin, dans la nuit du 12 au 13, c'est la fin de la première séquence. C'est la fin de la séquence Nanterre et occupation de la Sorbonne. À partir de maintenant, commence la deuxième séquence. Nous sommes le 13 mai au matin. La deuxième séquence, révolution étudiante dans le pays tout entier et mobilisation du monde ouvrier. Dans les jours qui suivent, immédiatement le 13 mai, l'agitation gagne toutes les universités, tous les établissements secondaires, toutes les grandes écoles. Le 13 mai, également, c'est le début du mouvement de grève dans le monde ouvrier. Le 13 mai a lieu la grande manifestation de solidarité. Le grand défilé de protestation organisé par les trois centrales ouvrières, CGT, CFDT, FO. C'est le 13 mai. Au début de l'après-midi. Manifestation de solidarité avec le mouvement étudiant. En somme, les ouvriers prennent le train, enfin les syndicats, je veux dire, prennent le train en marche. Le pouvoir gaulliste est contesté, il est gravement menacé, semble-t-il, les syndicats se concertent et décident de prendre le train en marche. Et ils organisent donc ce grand défilé, interminable défilé, qui traverse Paris. Je l'ai vu passer, boulevard Saint-Michel. C'était un véritable fleuve humain. Je me suis installé à une terrasse de café parce que c'était commode. Vous savez, devant la Sorbonne, il y a une petite place. Dans l'église de la Sorbonne, il y a une petite place. Il y avait des cafés qui étaient là. Il y a trois petits cafés. Je me suis installé à l'un des trois, celui qui était le plus proche du boulevard Saint-Michel, avec un de mes amis. Et à partir de 2h l'après-midi, nous avons regardé passer le défilé, qui était interminable. Je me souviens, cela a duré jusqu'à 7h du soir. 7h du soir, oui, peut-être 500 000 personnes. Je ne sais pas. Il y avait des ouvriers, bien sûr, il y avait des étudiants, il y avait des professeurs portant des banderoles, quelques slogans criés, mais pas beaucoup. Beaucoup de silence, beaucoup de discipline. Un silence même assez impressionnant. Et je me souviens de ceci, j'entendais les oiseaux gazouiller dans les arbres du boulevard Saint-Michel. Pour que les gens ne criaient pas. Il n'y avait pas de hurlements. C'était un défilé impressionnant et menaçant, justement, à cause de ce silence. Ce jour-là, sans doute, le général de Gaulle a commencé à prendre la mesure de la menace révolutionnaire. Le grand mai a donc commencé à battre son plein ce jour-là. Nous avons affaire, à partir du 13 mai, à deux phénomènes révolutionnaires qu'il faut considérer séparément, la Sorbonne occupée et la grève générale. la Sorbonne occupée, c'est quelque chose de très intéressant. Je l'ai vu fonctionner. J'y ai passé 3 semaines environ. Je pense que cela vaut la peine d'en dire quelques mots. Cette Sorbonne occupée est très bien organisée. Il y a des institutions révolutionnaires qui la dirigent, qui la commandent. L'institution principale, c'est le comité d'occupation. Comité d'occupation qui a dirigé en principe la Sorbonne occupée pendant toute la période. Il ne comprenait pas de communistes, ou tout au moins de communistes orthodoxes, mais des communistes révolutionnaires. Et beaucoup de membres du mouvement du 22 mars, dirigé par Cohn-Bendit. Alors c'est lui qui coiffait l'ensemble de la Sorbonne. Alors quelles étaient les attributions de ce comité ? Bien, l'attribution des salles, la distribution des salles, il fallait bien un secrétariat. Alors tel jour c'était les anarchistes qui faisaient un meeting, tel autre jour c'était la JEC, que sais-je encore. Alors il fallait attribuer les salles. Bon, c'est ce comité qui les attribuait. L'organisation des programmes, programmes festifs, par exemple, spectacles, festivals, danses révolutionnaires, enfin que sais-je. Bon, c'était la direction du congrès en quelque sorte. Contrôle du standard téléphonique. Relations avec la presse, très important. Accueil des touristes, car je vous l'ai dit tout à l'heure, le dimanche c'était la journée porte ouverte. Enfin, porte ouverte d'une certaine manière, parce qu'il ne s'agissait pas de laisser entrer la police. La Sorbonne était occupée et elle était défendue. La police ne devait pas et ne pouvait pas, en principe, entrer à l'intérieur. C'est ça le principe de l'occupation. Donc, on laissait entrer les braves gens qui venaient le dimanche avec leurs enfants, visiter. On leur vendait des journaux. On faisait la quête pour les ouvriers en grève, ou pour les étudiants en grève, ou pour les enfants des étudiants. On avait même installé une crèche dans la Sorbonne. Il y avait des petits-enfants, tout petits, que l'on menait, je les vois encore, menés en bande jusqu'aux toilettes par des étudiantes aux cheveux longs, n'est-ce pas, qui avaient un style très, très passionnariat, et qui les conduisaient comme ça, très gentiment. Il y avait une crèche, il y avait... Enfin, je ne vais pas vous donner, décrire tout ce qui s'est passé dans cet endroit. Autre institution importante, le service d'ordre. Le service d'ordre qui était tenu par les communistes orthodoxes, c'est naturel, et par l'UNEF. Les communistes avaient coiffé l'UNEF dès les premiers jours, c'est-à-dire entre le 3 et le 10 mai. L'UNEF était à direction mixte, gauchiste et communiste, jusqu'au 3 mai. Mais à partir du 3 mai, ce sont les communistes qui ont pris en main l'UNEF. Ce service d'ordre fonctionnait dans la bibliothèque Lavis, c'est-à-dire la bibliothèque des historiens. Il fonctionnait jour et nuit. Et il était coiffé donc par une direction permanente, communiste, depuis le 3 mai, mais les agents de ce service d'ordre étaient soit des étudiants, soit des jeunes assistants. Et c'est ainsi que j'ai porté pendant quelques jours le brassard du service d'ordre, parce que nous devions empêcher les anarchistes de mettre le feu à la bibliothèque. Ils en avaient très nettement l'intention. Alors tous les soirs, vers 7h, 8h du soir, nous passions dans tous les locaux et nous relevions les bidons de pétrole, d'essence, qui étaient déposés dans des coins et qui devaient servir soit à faire des cocktails Molotov, soit à mettre le feu à la boutique. Alors tous les soirs, nous faisions un ratissage et nous enlevions tout cela. Il fallait également protéger les collections de manuscrits, les dossiers qui se trouvaient dans les centres de recherche. Alors c'est pourquoi certains d'entre nous ont participé à l'action de ce service d'ordre. Sans lui, sans doute, les communistes ici ont joué le rôle habituel, pas de protection de l'ordre établi, de conservation de l'ordre. Sans ce service d'ordre, il est très probable que des documents précieux, des manuscrits, auraient disparu. Et vous savez que la bibliothèque de la Sorbonne est une des plus riches du monde. En manuscrit en particulier. Donc, il y avait le service d'ordre, et puis, il y avait enfin les services sanitaires. Services sanitaires qui se sont installés à partir du... un peu plus tard, vers le 20 mai, et en particulier une infirmerie qui fonctionnait dans les salons du recteur. Alors, ces institutions ont disposé d'une infrastructure importante, qui leur a été fournie gracieusement par l'État. Les bâtiments... organisés donc en bureaux, en dortoirs, en crèches, en garderie, en cuisine même. La cuisine a été installée un bon moment dans l'Institut de paléographie médiévale et ensuite dans l'Institut chinois, d'études chinoises. Les laboratoires n'étaient pas occupés, mais ils ne fonctionnaient plus. Et les tableaux, les amphithéâtres, évidemment, tout cela était à la disposition des institutions révolutionnaires.